Ouaté.
Des récits et des ondes.
Ультразвуковой вибратор Суперсоник. Фантастика.
Bienvenue à Des Récits et des Ondes. Mais aujourd'hui, je suis avec Michel.
Bonjour.
On accueille Fred Duvaux pour nous parler de raconter l'intime, de l'intime à l'universel, avec en point de mire son spectacle La Partie de Scrabble.
Et bonjour. Bonjour Michel, bonjour Roxane.
Alors Fred, il est venu vraiment de très très loin, du fin fond de l'Est.
Oh yeah. So far away.
So far away, ouais. Mm-hmm. Tu peux nous dire un peu, tu es donc conteur et tu nous viens de...
Je viens de Strasbourg, je suis originaire de Mulhouse, ce qu'on apprendra un petit peu dans le spectacle. Voilà, c'est la petite ville industrielle suisse au départ, qui est au sud de l'Alsace, donc dans le Haut-Rhin, puisque on va à l'envers. Et j'habite depuis quelque temps maintenant dans le Bas-Rhin, donc à Strasbourg.
D'accord. Et donc, si tu es là aujourd'hui, c'est pour nous parler de ton spectacle qui s'appelle une partie de Scrabble.
Qui s'appelle La.
La partie de Scrabble. Et qui ne consiste pas simplement à nous donner les règles du Scrabble.
Non. Sinon, mais je le fais aussi.
Ah, d'accord.
Je le fais, mais c'est vrai que du coup, ce serait un entresort de 10 minutes.
Oui.
Peut-être que je m'étalerai un peu plus du coup. Mais parce que j'avais beaucoup d'anecdotes qui remplissaient peut-être même trop par rapport à... Parce que je me suis vraiment intéressé après coup à l'univers du Scrabble. Et donc, j'ai des anecdotes, forcément.
Ah, ouais. Voilà. Et donc, tu pourrais nous dire en quelques mots ce qu'est la partie de Scrabble, ton nouveau spectacle?
Oui. C'est tout à fait bien pitché sur le site internet. Je vais me repomper, c'est ça que je veux dire. Non, mais voilà, c'est un récit, une chronique sensible et ludique d'un proche aidant, d'un aidant, mais je rajoute proche pour dire qu'effectivement, là, on est dans le cadre familial. C'est une relation, effectivement, entre à travers le prisme du Scrabble, qui est un prisme symbolique, qui est aussi un prisme vécu. Pour essayer de maintenir une relation et une correspondance, puisqu'on parle de lettres, une correspondance entre un fils conteur et une mère orthophoniste à la retraite, c'est-à-dire véritablement que le mot écrit et parlé est aussi au centre de la relation, en quelque sorte.
C'est ça.
Voilà.
D'accord.
Alors, c'est pas la première fois que tu fais un spectacle où tu racontes l'intime, où tu abordes le récit de vie, mais d'un point de vue personnel. Mmh. Il y en avait déjà eu un autre avant,
oui.
Mais qui évoquait une génération familiale au-dessus.
Et la même, c'est-à-dire que, au grand dam de mon père, des fois qui, un peu par jalousie, me disait « Ouais, quand même, dans notre famille, on avait un maire. » Oui. Qui se baladait en pantoufles. Je dis, papa, peut-être qu'un jour je ferai quelque chose sur ce maire en pantoufles. J'ai toujours pas fait, il va falloir que je m'en rattrape. Mais effectivement, au départ, j'ai fait un autre spectacle qui, effectivement, si je ne l'avais pas fait, je serais peut-être venu moins spontanément à cette écriture-là. Donc, c'est Tanuki et Kitsune, qui est une histoire française, dans laquelle j'évoquais effectivement l'appareil, je vais me pitcher. Comment un enfant, puis adolescent, puis adulte, qui pourrait être moi, s'invente des expéditions de recherche imaginaires pour retrouver son grand-père disparu en Indochine. Voilà.
C'est ça.
Puisqu'effectivement, donc, ma grand-mère maternelle, quand j'étais ado, je passais la voir tous les mardis, comme un rite. J'avais sans doute d'autres choses à faire le mardi avec les copains ou les copines. mais c'était un rite. Et on, effectivement, elle avait une voix à la François Mitterrand. C'est-à-dire, ça en imposait un peu.
Ah oui.
Ouais. Un peu à l'ancienne, comme ça. Très 4e, 5e République. Et effectivement, elle racontait famille d'instituteurs et d'institutrices. Elle me racontait la guerre et me racontait, et ça c'est vrai, elle ne me racontait pas la guerre d'Indochine, puisqu'en fait c'était un tabou, mais même pas en elle. On ne parlait pas de la guerre d'Indochine, on en parle encore très peu, c'est
reste
encore. Voilà. Par contre, Radio Luxembourg, c'était quelque chose que, pour se renseigner sur la guerre d'Indochine, de ce qui se faisait actuellement, à demi-mot, parce que les lettres étaient ouvertes. Mon grand-père, qui était donc dans les montagnes de la MAM, disait à ma grand-mère de s'informer sur la réalité de la guerre via Radio Luxembourg, mais certainement pas la radio française.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Mmh. Juste, voilà, ça c'est un détail pour dire qu'effectivement, je me suis retrouvé très sur le tard avec la correspondance de mon grand-père à ma grand-mère, que personne n'avait lue. Enfin, à part ma grand-mère. Voilà, que même ma mère n'avait pas lu, puisque pour des raisons assez obscures, quelqu'un a gardé ses lettres, n'en faisant aucun usage. Et puis après, quand je les ai lues, ça a fait écho. Le conte n'est jamais très très loin quand même. On avait ça faisait écho avec un conte que je racontais sans savoir pourquoi je le racontais, qui était le blaireau et la coiffeuse. Donc c'est le chien, enfin c'est le tanouki et la coiffeuse, qui est une histoire d'amour malicieuse, voilà. Et à chaque fois, cette femme me faisait penser à ma grand-mère. Et donc, j'ai fait le lien. Voilà. Donc ça, c'est dans le premier spectacle où, effectivement, je tisse sur cette histoire taboue l'entrée, c'est qu'en fait, et ça, c'est vrai, c'est que ma première fois que ma grand-mère m'a dit, que je découvrais un peu sur le tard, je la vous voyais d'ailleurs, quand je lui ai demandé si j'avais un grand-père, elle m'a dit oui, il te ressemble, il s'appelle Lionel, il a disparu en Indochine. Et je me suis dit, disparu, ça veut dire qu'on peut le retrouver.
Oui.
Et c'est à partir de là que, du peu qu'on me disait, et de l'énorme imaginaire que nous, enfants des années 80, nous avions dans la gueule, dans cette petite lucarne magique, avec les animés japonais, l'apparition de tous ces Ulysse 31, Cobra et autres magnifiques, Jace et les conquérants de la lumière, etc. Enfin bon, bref, j'ai fait. Et par la suite, assez rapidement, trop tôt pour mon âge, les films de guerre du Vietnam, puisque ça, par contre, ma grand-mère me parlait de la guerre du Vietnam comme une espèce d'à côté. Voilà.
Oui.
Voilà, une espèce de passerelle pour dire des choses, quoi. Donc ces deux fictions-là me permettent de raconter un petit peu ces émois, effectivement, d'enfants puis d'adolescents par rapport à une histoire qui n'est pas transmise. Mmh. Voilà. Et ensuite, les lettres transmettent l'histoire, et des fois, c'est difficile de se confronter à la réalité.
C'est ça, oui.
Voilà.
C'est intéressant, c'est une petite remarque par rapport à cette guerre d'Indochine et du Vietnam, c'est que dans le cinéma américain, on a beaucoup montré la guerre du Vietnam, et dans le cinéma français, c'est sur la guerre d'Indochine, il y a beaucoup, beaucoup moins. Il y en a quelques-uns qui existent, mais très peu finalement.
Eh bien, Michel, c'est exactement ce qu'à l'âge de 12 ans, quand on regardait Platoon avec ma grand-mère, que mes parents ne savaient pas qu'on était en train de regarder Platoon, mais c'était sur Antenne 2, hein. Donc on en a profité. Elle m'a dit, tu vois, Fred, et ça je le dis dans le spectacle, on pourra dire ce qu'on veut sur les Américains, eux, ils savent parler de leurs échecs.
Oui.
Voilà. Donc j'avais déjà cette entrée.
Oui, non, c'est ça. Ouais,
la
ouais,
bouche
ouais.
même de l'héroïne. Voilà.
Oui, et comme si du côté français, il y avait une sorte d'interdit, enfin, il faut pas en parler, il faut pas faire de...
C'est tricoté avec la politique française, avec ensuite, ce sont les mêmes qu'on a retrouvés en Algérie.
Oui,
avec,
exactement. Ouais.
Voilà, c'est... C'est scellé, c'est tout doucement décellé petit à petit, mais ouais.
Alors pour revenir sur la partie de Scrabble, nous on utilise souvent le terme récit de vie, alors que je voyais sur ton site, tu parles plutôt d'autofiction familiale.
Dans la partie Scrabble, je parle de chronique.
De chronique, voilà. C'est ça.
Ouais. Ouais.
C'était pour voir aussi dans quelle mesure, entre la réalité et la fiction, est-ce que tu te permets de réécrire des choses, ou bien est-ce que tu es assez fidèle dans ce spectacle-là, la partie de Scrabble.
Dans le précédent, je disais aux gens que ce que je disais était vrai à 98%.
Voilà.
Il y avait quand même 2%, un petit élément fictionnel, peut-être plus, mais il y avait très peu d'éléments fictionnels qui faisaient sens,
mm-hmm.
mais qui sont juste une manière de sublimer un petit peu quand même cette histoire-là. Pour ce qui est de la partie de Scrabble, tout est vrai.
C'est ça.
Tout est vrai, puisque c'est ça le principe de jeu établi avec la personne qui m'a accompagné et dans l'écriture et ensuite dans la mise en scène et la dramaturgie, c'est Titus.
Ah oui.
Voilà. Et c'est pas forcément là où je voulais aller, puisque fort de Tanuki et Kitsune avec Marien Tillet, qui avait décelé en moi l'envie d'imaginaire, ce garçon qui veut jouer et qui s'invente plein de trucs, etc. Et tout. Et je me dis, bon, bah voilà, je vais. Et c'est pas ça qui s'est produit.
C'est ça, ouais.
Ouais. Et c'était bien parce qu'effectivement, c'est autre chose qui s'est produit de toute façon. Voilà. Mm-hmm. C'est une histoire dans laquelle je suis intriquement impliqué aussi.
C'est ça, ouais, ouais. Et après, il y a un travail, quand même, je dirais peut-être pas de fiction, mais de pouvoir prendre une distance aussi par rapport aux choses que tu racontes aussi en spectacle. Ouais.
Oui, prendre distance et en même temps pas trop.
C'est ça, d'accord.
C'est-à-dire qu'il faut que je continue à garder vif les émotions que j'ai ressenties.
Oui.
Voilà.
Mais ne pas te laisser prendre par l'émotion en spectacle, par exemple.
Non, éventuellement. Mais ça arrive. Hein.
C'est vrai.
Ça arrive et faut gérer.
Oui, c'est
arrive.
Ça. Ouais.
C'est-à-dire que je suis en face de ma mère dans ce spectacle.
Mm-hmm.
C'est une chaise vide, mais elle est progressivement habitée et progressivement, il faut que je la voie en fait. Je peux essayer de ne pas la voir, mais dans ce cas, quelque chose manque.
Ah, oui.
Quelqu'un manque.
C'est ça. Oui.
Et quand je la vois, bon ben, je sais où je vais,
mm-hmm.
mais je sais aussi qu'il faut que je passe par cet état d'émotion.
C'est ça. Oui.
Voilà. C'est ça que je raconte.
Mm-hmm.
Ce que je raconte, c'est moi. C'est très, en fait, je raconte évidemment son histoire, etc. Et on prend énormément d'empathie d'envie de connaître cette dame. Mais ce qu'on a voulu montrer avec Titus, c'est qu'est-ce qu'éprouve une aidante ou un aidant.
C'est ça, oui.
Dans des étapes qui, l'air de rien, en tout cas pour les maladies neuroévolutives, sont très. C'est un parcours.
Ah oui.
C'est pour ça que je parle de chronique, ça peut être un parcours. J'ai écrit ce spectacle comme un carnet de bord en fait.
Mm-hmm.
Voilà.
C'est ça. Oui. Mm-hmm. Et j'ai pas encore l'occasion de le voir, mais comment est-ce que réagit le public
Eh bien, très diversement et très étrangement. Mais en règle générale, ça. Souvent, le public tarde un peu à dire de toute façon à un artiste j'ai adoré, etc.
Oui, bien sûr.
Il y a un temps de réserve. Mais en disant que dans ce spectacle-là, le temps de réserve est encore plus long. C'est que, par exemple, récemment, j'étais en Haute-Marne et on a voulu faire un bord-plateau dans la foulée. C'était pas possible. Et moi, je le savais. Donc j'ai dit on peut respirer 5 minutes, on peut aller dehors, etc. Mm-hmm. Et tout, voilà quoi. Et parce que oui, c'est d'autant plus que là c'était dans un milieu où des gens, il y avait enfin voilà, il y avait c'était pas dans le cadre du mois de l'aidant, c'est en octobre, mais il y avait c'était une association qui avait soutenu le truc, donc en gros il y avait pas mal de gens qui étaient concernés dans le milieu soignant ou autre, donc c'était remuant. Voilà. Et puis oui, les gens sont remis, c'est ce que je dis souvent, voilà, du peu d'expérience que j'ai, c'est à spectacle intime, témoignages intimes. J'ai eu peu de témoignages directs, mais j'ai eu des cartes, j'ai eu des SMS de gens qui me disaient voilà, moi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose je parle de l'intime, donc c'est intimement qu'on vient me dire merci.
Et, c'est ça. Ouais.
C'est assez fort. Voilà.
Mais c'est souvent ça l'idée, quand on parle d'intime, on a l'impression qu'on rentre dans quelque chose d'un peu narcissique. Et au fond, ce qui se passe, c'est que ça éveille une intimité dans le public aussi, qui aussi peuvent identifier des choses à ce que tu racontes peut-être dans ton spectacle aussi.
Ouais, bah là c'est vraiment dire qu'est-ce que j'ai ressenti, puisque quand je parle des émotions, de ce qu'on ressent face quand on accompagne quelqu'un dans sa maladie et parfois dans son crépuscule, c'est euh, c'est tout le désarroi, la rage, la colère, la culpabilité, et de les montrer.
Oui.
Voilà. Mm-hmm. De façon à ce qu'effectivement, un jour se dire, ah oui, ouh, merci. Il y a des personnes qui sont venues dire merci. En fait, peut-être que dans ces milieux-là, ça manque. D'ailleurs, il y a des colloques, il y a des conférences, il y a des fascicules, il y a des cafés des aidants, etc. Et tout. Et ça, le café des aidants, c'est super. Mais un spectacle, peut-être que c'est quelque chose aussi qui peut faire du bien. Voilà.
C'est ça. C'est bien. Voilà. Ben, je propose qu'on écoute un peu de musique. Et on va écouter un groupe qui s'appelle Les Troubadours.
C'est pas québécois.
Non, ce sont des Anglais, je pense. Okay.
Ah, The Troubadours.
The Troubadours.
Ah, I know it.
You know?
I think.
But les voilà.
I wrote myself a song for the days I get fucked up, low key every day. Crashing in my bed when I'm coming back alone.
I live uptown, can I crash at yours?
I have a choice and I'll make it get drugged up. K-ho, FaceTime with my soul while I'm staring at my phone.
Hello, you there?
Yeah. Is it just me or is everybody like this?
I just need time to think.
Making selfless wishes, but their actions selfish.
I left their own ring.
Contradictions making me accident prone.
Hey, jump out this window.
Turn a blind, I don't mind, but I look up for my own. And I'm singing, roaming, rumming, running, ramming, coming, getting nothing. This shit's clouding up my energy. Yeah, I be roaming.
Hands in my side pockets, give me the bag.
Rock.
I beam up, space set, stash in my socks. Electroshock, stuck my fingers in the sockets. Pull up to the scene, goth world so serious. Dim lit, all room, bass, boom artillery. Tattooed bouncers, get bad vibes and period. Inquiries by curious, not so subliminal. I wrote myself a song while I be cruising submarine. Underwater.
Ooh.
And pristine waters lit up. What a sunbeam.
So fine, I'm immersed, it's delicious.
Yummy, yummy.
Ugliness at the porthole. Yeah, I'm staring at the fishes. Blah, 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 blah. Fuck the cops, watching riots straight through the drones. Yeah, wanna x-ray me butt naked. Check my bones. Yeah, I'ma get big, shedding all of that sinister. Fuck that old lady snitching on me at the register. And I'm singing, roaming, rumming, running, ramming, coming, getting nothing. This shit's clouding up my energy. Yeah, I be roaming, rumming, running, ramming, coming, getting something. To plug up the hose all around me.
Hey, hey. Yeah. I'm bumming, I'm banging on empty cans. I got Morris on my feet. This ain't Kansas, burning tires. See the fires in the street. I'm bumming, I'm banging on empty cans. I got Morris on my feet. This ain't Kansas, burning tires. See the fires in the street, yeah.
Et nous voilà de retour en studio avec Fred et Michel pour cette émission sur raconter l'intime. Alors moi j'ai une question peut-être un peu indiscrète, c'est que ce spectacle, tu nous as dit que tu avais d'abord eu Tanuki et Kitsune qui étaient déjà une chronique mais où l'imaginaire prenait beaucoup de place. Mmh. Puis après, tu as eu d'autres spectacles de contes traditionnels, de récits de vie, mais de personnes, cowboy, cowgirls, tout à fait différents. Et ici, tu es vraiment dans du récit de toi. Et en plus, tu as commencé l'écriture de ce spectacle à un moment où tu étais complètement plongé dans la situation.
Oui.
Comment on gère ça? Comment on arrive à prendre suffisamment quand même de distance pour atteindre cette part d'universel qui touche les autres?
Ben, ça s'est fait de manière étrange, de la meilleure façon qui soit, sans doute, pour l'accompagnant que je fus et pour le spectacle. C'est-à-dire que au départ, bon, c'est quelque chose que je vais dire dans le spectacle, mais bon, mais c'est la situation. mon père avait un cancer compliqué, donc il m'a appelé en urgence. Ça, c'est les faits. J'étais en train de me dire, oh là là, il y a des appels d'offres, etc. Enfin, il y avait des appels pour à projet. Et j'étais parti sur faire un spectacle spatial, faire des contes de l'espace avec mon piano-guitare, parce que mon piano-guitare de Tanuki Kitsune, je m'en servais plus. Je disais, ah, faut que je bosse un peu sur Ableton. Enfin, tu vois, j'étais sur autre chose. Et là, il m'appelait à la rescousse, ce qui est rare chez mon père, parce qu'il était retenu par l'hôpital, parce que la chimio se passait mal, sa première, ce qui était de mauvais augure. Et que ma mère n'était plus en état, surtout avec l'angoisse là, de gérer. Enfin voilà, il fallait quelqu'un. Donc je me suis retrouvé avec elle pendant 4 jours, ce que je raconte. Et ces 4 jours-là, ces 4 jours où je savais déjà qu'elle aimait le Scrabble. Mais là, ça a été salvateur. C'est-à-dire vraiment de... Je voyais qu'elle faisait les 100 pas encore à 23h. J'ai dit, maman, tu veux jouer au Scrabble? Oui, mais on joue au Scrabble. Ça l'apaisait.
Oui.
Voilà, on a fait beaucoup, beaucoup de Scrabble et pendant 4 jours. Et au cours de ça, je me suis rendu compte de ce que parce que le compteur n'est jamais loin. Celui qui voit ce qui se passe, etc. Et je me dis, il se passe quelque chose. Et j'ai proposé très, très vite pour le Nombril du Monde, pour une aide à l'écriture. Et je l'ai eu. Et entre-temps, bon, bah, l'état de mon père s'est aggravé, etc. etc. Et au départ, je voulais faire un spectacle un petit peu comme... J'avais beaucoup aimé le spectacle de Nicolas Bonneau sur Ali 74, le combat du siècle. Je ne sais pas si vous avez vu ce spectacle, où il raconte l'histoire du boxeur.
Ah oui.
Voilà. Et aussi ce match-là, qui avait une répercussion mondiale, en fait, sur l'écho de l'Afro-Américain, de l'Afrique, par rapport aux États-Unis.
C'est le combat qu'il a fait à Kinshasa, non?
Oui. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, voilà. Oui. C'est ça. Je ne me rappelle plus de tous les détails. Mais... Et disons que je voulais faire une partie de Scrabble en direct. Donc déjà, ce n'était pas possible techniquement, en fait. Hein, bon, bref. Et avec une caméra. Enfin bon, j'avais plein de trucs pour... Et puis un truc très participatif. Vraiment comme un... Forcément. Et puis ce qui s'est passé, c'est que mon père est décédé, qu'on s'est retrouvé en situation vraiment subite et pas prévue et d'accompagnant fort. Et petit à petit, mon sujet a changé. Mais le spectacle, il commençait, je veux dire, j'ai commencé à faire l'appel à l'écriture, j'avais des soutiens et je me suis dit, bon ben voilà, mais... Et donc la grande difficulté avec Titus, c'est de lui dire, c'est que quand je revenais avec des choses, il fait, ouais, mais là on est... Je ne savais plus comment arrêter le spectacle, puisqu'en fait, je découvrais, le spectacle était l'occasion d'un carnet de bord, dans lequel, effectivement, petit à petit, il m'arrivait des situations d'aidant. Sauf que pour un propos, il faut savoir à un moment donné pouvoir sortir. Et on ne savait pas.
C'est ça, oui.
En fait, on ne savait pas quand ça s'arrêtait. Je ne savais pas où était le mot fin, ni même quel était l'objet à un moment donné. Tant la situation d'aidant prenait le pas sur. Mais l'écriture était lancée. Sauf que le laboratoire humain, c'était moi. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Et du coup, j'avais une sorte de complice, et on va dire garant, pas seulement d'écriture ou artistique, mais humain, qui était Titus.
C'est ça.
Je dis ça parce qu'effectivement, faut de l'aide. Mmh. Et aussi, j'avais d'autres soutiens, des personnes, des aidants qui étaient passés par là, et qui, voilà, petit à petit, on a... Et voilà. Mm-hmm. Mais donc ça a pu m'aider. Ça aurait pu être enterré, ça aurait pu être voilà. Mais les conditions étaient remplies pour que ça se passe bien et pour que le spectacle. Alors des fois j'en avais marre, hein, parce que des fois je me retrouvais dans ma vie avec deux mères.
Ouais.
une mère que j'accompagnais un petit peu sur, vraiment sur les dernières étapes, et la mère fictive qui était, voilà, et des fois je n'en pouvais plus, quoi. Mais quand même, l'un soutenait l'autre.
C'est ça.
Voilà. Le spectacle me donnait des clés pour essayer d'être... et je vivais des choses dans la situation d'un compagnon qui, où je me disais, mais ça, c'est beau. Voilà. C'est beau et ça doit être dit, en fait. Parce que c'est un peu... C'est un peu tabou, quand même, ce que ressent l'aidant, l'accompagnant, l'accompagnante.
Oui, bien sûr. Et dans les personnes que tu appelles les aidants, est-ce qu'ils ont vu le spectacle?
Oui, oui, oui. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Bah, c'est, ça veut dire qu'il va y avoir pas mal d'étapes, voire toutes les étapes, qui sont... voilà. Et puis, il va y avoir des choses... Des gens vont être... voilà, des gens, ça va les renvoyer à la culpabilité qu'ils ont par rapport au fait de s'être mal ou peu occupé de leurs parents, oui, par exemple. Mm-hmm. Ah ben ça, c'est leur histoire, ça ne sera pas du tout. Oui. Mais des fois, voilà, il y a beaucoup d'adhésions, il y a beaucoup d'émotions. Des fois, il y a un petit peu des choses, ça vient gratter, hein, certaines choses.
Oui,
voilà.
Oui.
Ouais, ouais. Ça vient pas mal gratter ceux qui ne sont pas encore aidants ou de loin.
Ah oui.
Et qui en ont peur. De la fin de vie,
c'est
puisqu'on
ça,
parle
ouais.
de ça.
Ouais.
Voilà. Et bien sûr, mais voilà. Et donc, et après, il y en a, ça leur évoque. Souvent, ça évoque, il y a les grands-parents.
Mm-hmm.
Voilà. Mais oui, voilà. En règle générale, avec les aidantes et les aidants, ça se passe bien.
C'est
avec
ça,
ceux qui sont qui ont un peu peur de l'hôpital, la maison de retraite. L'EHPAD, le mouroir. Chez nous, c'est l'EHPAD. Je ne sais pas si.
Oui,
vous...
oui,
c'est voilà.
Bien.
Bah, je vous avais.
Oui. On a l'équivalent.
Vous
oui.
avez l'équivalent, ouais. Voilà. Et puis moi, j'essaie d'ailleurs de donner une autre vision de l'EHPAD.
Voilà. Ouais.
Qui est effectivement, on le redoute. Puis une fois qu'on y est, bon. Voilà. Mm-hmm. Il s'y passe des choses humaines.
En tout cas, je me dis. Bah, il faut quand même être assez courageux pour, effectivement, comme tu dis, aidant dans la vie et en même temps travailler sur ce spectacle qui te renvoyait toujours à ça.
Ouais.
Est-ce que tu as eu des envies est-ce que tu as eu. À un moment donné, tu t'es dit je vais pas le faire ou je vais renoncer ou...
Oui. Hmm. Voilà.
Mais c'est ouais. Pour moi, c'est tout à fait compréhensible.
Ou alors, ouais. On est obligé de faire la création puis on l'a fait.
C'est ouais. ça, oui, oui, voilà. D'accord. Et apparemment, effectivement, d'avoir quelqu'un comme Titus, c'est ça ?
Oui.
Qui est quelqu'un qui est complètement extérieur à ça, ça a dû t'aider aussi dans savoir là où tu pouvais aller et peut-être se dire, ben écoute, là, ça fonctionne, rassure-toi. Ou...
Oui, alors en plus, il s'est retrouvé, et c'est pas la première fois, il s'est souvent retrouvé à accompagner des personnes qui ont des sujets forts. Voilà, dans le cadre
c'est
du Nombril
ça.
Du
ouais.
Monde. Et là, c'est cette même année, il a eu à gérer deux spectacles très, très dans la vérité
mm-hmm.
d'une situation, savoir moi la situation voilà, d'une maladie évolutive et de son accompagnement. Et puis Céline Ripoll avec, sur le l'harcèlement, enfin les violences conjugales.
Ah oui.
Voilà, qu'elle raconte très bien. J'ai vu son spectacle et elle y va à fond.
C'est ça.
Voilà. Et donc, lui, ça l'intéresse. Et c'était ça, hein, la direction. C'était, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu penses. C'est ce que tu vis. C'est mm-hmm. ce que tu traverses. Voilà. Donc, on maintient ce cap. Alors qu'il est... Alors, j'ai malheureusement pas vu pour l'instant ces spectacles. Mais il est dans le théâtre de rue, il est dans des choses souvent ouais. sur le langage, la truculence, etc. C'est quelqu'un de très, très drôle, très, très joyeux, très truculent. Mais il est très exigeant sur la qualité de la restitution de l'émotion et de voilà, de...
Ah, oui.
Souvent, il me dit, j'ai du corps. C'est-à-dire que j'ai peur des fois de faire mal, parce qu'en fait, il y a souvent eu des retours. Voilà, on me disait, cette scène, elle est trop, cette scène, elle m'a mis mal à l'aise, j'ai dû baisser les yeux, etc. Tu vois, parce qu'on parle des réalités
oui.
où à un moment donné, l'accompagnement devient le soignant, l'accompagnant devient le soignant. Voilà. Et c'est ces zones-là sur lesquelles il a été très attentif.
C'est ça.
Voilà. Mmh. Et il m'aide à ce niveau-là, parce que souvent, moi, si je n'ai pas à ce moment-là quelqu'un qui me dit si, je me dis, mais c'est malaisant. Voilà.
Ok. Ben, je propose qu'on écoute encore un peu de musique et on va écouter ici Natural Information Society. Et ce qui nous permettra après peut-être de parler de ton parcours jusqu'ici comme conteur aussi.
Très bien.
Je me demandais, si j'ai bien compris, que l'accompagnement avec Titus, en fait, c'était un peu une merveille du hasard, que c'est venu avec le fait que tu avais reçu la bourse du Nombril du Monde.
Oui.
Waouh.
Ouais. J'étais très ému lorsque j'ai eu un appel de Titus. Voilà. Sentir qu'il était intéressé, que, voilà, et, qu'il ne connaissait rien au Scrabble. Ça l'intéressait. Maintenant, dans une autre, il se retrouve à jouer au Scrabble avec sa mère, mais sans passion. Alors moi, j'ai un certain intérêt pour le Scrabble, à un moment donné, c'est sûr que j'ai bien aimé, parce que je gagne. Déjà, voilà. Et, mais ouais, ça a été propulseur. Voilà, propulseur. Et après, pas peu de temps après, mon père est décédé. Je me suis retrouvé avec Titus à parler de ce spectacle. On écoutait les bandes parce que pour pouvoir faire ce spectacle, j'ai enregistré des 5 parties avec ma mère. Et je les ai enregistrées. Il y avait mon père qui était là encore. Et puis c'est devant lui que je me suis rendu compte que, ah bah tiens, j'entends mon père. C'était il y a 3 semaines. Ouais. Tout s'est un peu accéléré, quoi. J'étais en plein deuil, en fait, de mon père quand je me suis retrouvé avec ça. Et je ne savais pas encore tout ce qui m'attendait. Lui non plus. Mais on avait déjà, quand on a commencé à... On s'est rendu compte en 3 jours, il était là que pour l'écriture, mais on s'est rendu compte le 3e jour qu'on allait faire plus. On l'a compris. On a commencé à mettre des grands paperboards un peu dans tous les murs, on a essayé de distinguer les trucs, et on commençait à se lever de la table et dire, et puis voilà, puis on était en train de faire de la mise en scène. Mmh. Et c'est presque très implicitement qu'on a convenu l'un et l'autre. Et du coup, après, moi, je me suis retrouvé avec ce spectacle d'un côté, et de plus en plus face à la situation d'accompagnement. Effectivement, s'il n'y avait pas eu ce quelque part cette inscription d'un compagnonnage, parce que c'était un petit peu ça, c'est que non seulement c'était pas que pour l'écriture, c'est qu'on savait déjà qu'il mmh. était là pour la suite. Ben j'ai pu me dire, j'étais dans l'angoisse de la page blanche lorsqu'en novembre on devait se voir. J'ai eu un accident qui fait que ça a été encore repoussé. Voilà. Et quelque part, c'est ce qui a fait aussi que quand je suis revenu le voir, il me fait « Ouh là là, ça a changé ». Je fais « Bah ouais, ça fait un an, ça fait 8 mois que je suis aidant. Enfin, que je suis vraiment dans une situation... il a fallu tout gérer, en fait. Tout ce à quoi des enfants sont, de manière précipitée, plus ou moins concertés, obligés de faire la vente de la maison, les trucs, les placements, tout ce chambardement, qui est toute cette charge administrative, toute cette gestion de l'humain qui va derrière, les cartons, mm-hmm. les bidules, enfin bon, bref. Donc quand je suis revenu devant Titus, je fais, ah ouais, ça a changé. Je fais, ouais, ouais, on est toujours avec ce Scrabble. Et après, ça a été comment les deux sont bel et bien liés. Et c'est mon frère qui m'a donné la clé, un soir, qu'on était bourrés. Mais parce que il savait déjà pour le projet de la partie de Scrabble. Et il m'avait dit, de toute façon, le Scrabble, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Ben quoi ? Ben j'ai regardé en anglais, to Scrabble, ça veut dire brouillonner, griffonner, tâtonner. Et je fais, ah ouais, c'est ça. C'est ça. Et du coup, ouais, c'est une clé. Ça a été une clé pour moi, mais je l'ai pris tout de suite en me disant, oui, ça, j'ai pu relier ce qui a été de l'ordre de l'intuition et avec ce qu'on était en train de vivre, mon frère, ma sœur et moi. Mm-hmm. Et de dire le Scrabble est cet objet scénographique qui peut raconter cette histoire. Voilà.
Ben écoute, on t'avait proposé, si tu as envie, ce serait de nous raconter peut-être un petit extrait de ce spectacle, le Scrabble, donc la partie de Scrabble. Si tu as envie, on t'écouterait avec plaisir.
Oui, alors je vais essayer de me prêter à cet exercice. Elle a mis un E, et vu les soupirs qu'elle rend par anticipation de l'effort, et son regard posé sur la grille, ça va être un mot long. Messieurs, dames, vous allez assister en temps réel à un mot placé par ma mère. Ça, en raison de sa difficulté motrice progressive, de sa difficulté de préhension, mais à bien y réfléchir, sa lenteur à ma mère, ça vient de plus loin. Je regarde le premier mot qu'elle a posé, « ce qui est ». S-K-I-A-I-T. Et je m'évade. Je pense à nos vacances en sport d'hiver dans les années 90. À Courchevel 1450. C'était entre Courchevel 1250 et Courchevel 1650. L'ascenseur social de la bourgeoisie à l'époque, le middle class. Nous, très vite, on avait toutes nos étoiles. Et on descendait comme des flèches, les pistes noires, les pistes rouges. Sauf quand on était en famille. Là, c'était que les bleus et les vertes, parce qu'il y avait maman. Et nous, on descendait tout chousse. On arrivait au chalet et on avait le temps. On avait le temps de défaire nos grosses godasses, de planter nos skis dans la neige, d'y rajouter nos dragonnes. On avait le temps de se défalser à moitié, de prendre le soleil, de commander un chocolat chaud, de boire le chocolat chaud, de terminer le chocolat chaud. Quand enfin, on la voyait, là-haut. Tout en haut de la piste bleue des Indiens, l'autoroute des Trois-Vallées. On la reconnaissait moins à sa combinaison turquoise qu'à sa façon inimitable de faire d'immenses lacets qui faisaient toute la largeur de la piste. De là où on était, on avait l'impression qu'elle faisait des luites couchées à l'infini. Et de là où on était, on avait même l'impression qu'elle la descendait pas, cette piste. Qu'à force, elle défiait totalement les lois de la gravité et qu'elle parvenait même de lacet en lacet à la remonter. Ma mère, sa lenteur, c'est un style.
Un tout grand merci pour ce très beau moment. Et voilà, qui nous donne encore plus envie de le voir ou de le revoir, le spectacle. Ouais. Bon, on va écouter un peu de musique parce que ça va être difficile d'enchaîner ou sinon. Thank you.
partie de Scrabble, c'est ton tout nouveau spectacle. On a compris que ça avait mis longtemps à entrer en maturation. On sait qu'il y a eu Tanuki et Kitsune, et nous, on a la chance de te bien connaître, mais pour les... Mon Dieu, comment je parle ? Mais les autres personnes qui n'ont peut-être pas toutes ces infos, comment ça s'est construit, ton travail de conteur, ce lien à l'oralité, parce que tu fais du slam aussi.
Oui.
Est-ce que tu peux nous raconter ça un petit peu ?
Ouais,
ta biographie.
Ma biographie.
Parce qu'il y a quand même ce lien entre l'écrit et l'oral qui est assez présent chez toi.
Ouais. Oui, je sais pas, comme beaucoup d'ados, moi je voulais, j'ai lu Barjavel et Stephen King, et je voulais écrire des trucs d'horreur, je voulais écrire des nouvelles fantastiques.
Ah oui.
D'ailleurs, j'ai commencé à écrire plein de nouvelles fantastiques pour dire, voilà, l'affection à l'écrit et au format court aussi, c'est-à-dire aux nouvelles.
Oui, ouais. C'est ça. Ouais.
Et ça, c'est pour l'écrit. Et puis ensuite, j'ai fait des études de philo. Je n'ai pas fait grand-chose, mais des fois, je me surprends à me dire que ça m'a quand même construit sur deux, trois choses. Et l'ethno après, parce que c'était un moyen détourné de poursuivre mes études. Et entre-temps, tu vas à la cafette, et à la cafette, tu rencontres des gens. Et les gens que tu rencontres, ils font de l'improvisation théâtrale à Strasbourg. Donc, j'ai fait de l'improvisation théâtrale. C'est vrai que c'est un gros tremplin. Il y a beaucoup de comédiens... qui font à Strasbourg soit du théâtre, soit de la télé, qui sont issus de cette espèce d'école d'impro.
Oui.
Voilà. Ça a été important quand même. C'est-à-dire, ensuite, j'ai été bibliothécaire, jeunesse, à raconter. C'est comme ça que le conte est arrivé.
C'est ça.
Avec aussi un écho, c'est-à-dire que j'ai une copine d'enfance qui est conteuse, qui s'appelle Anouka Nissonen, on travaille encore ensemble, et qui est de Mulhouse, comme moi, voilà. Et elle avait déjà fait un peu le pas, c'est-à-dire que étudiante, on s'est retrouvés à Strasbourg en tant qu'étudiant, à bien glander, à bien profiter de cette vie étudiante, tout en essayant de valider nos années, enfin bref. Et puis elle allait à la bouquinette raconter des histoires. Voilà, elle racontait des contes des mille et une nuits. Déjà, elle avait quelque chose de l'ordre conteuse qui venait, plutôt que moi. Non, moi, j'étais arrivé la première fois, vraiment, j'avais 19 ans. Et je fais, ah ouais, cool. Je sais pas, je vais raconter une nouvelle de Dino Buzzati. J'ai raconté le cas de Dino Buzzati à des enfants. Et je pense que... maintenant, ils doivent encore avoir... Enfin, j'ai des frais de psy... Bref, et puis à un moment donné, j'ai entendu parler d'un grand prix de conteur. Il y avait une formation aussi à Mulhouse, ça c'est important de le dire, mais c'est comme ça que les choses un peu, c'est qu'il y a des opportunités, il y a tout d'un coup des choses qui sont déjà là. Une collègue qui au départ me regardait un peu comme ça, puis maintenant, voilà, on est très amis, mais qui me regardait, toi tu es le conteur. Elle m'a dit, tiens, lis ça. C'était le conte des contes de Jean-Baptiste Basile. Un gros... Donc j'ai découvert le conte par le biais d'un dispositif qui existait dans la bibliothèque où j'étais. Et ensuite, j'ai entendu parler du Grand Prix des Canteurs. J'y suis allé, j'étais finaliste, je me suis vautré. J'ai eu un encouragement d'un certain Abby Patricks,
ah oui.
Qui, juste à la suite de mon vautrage en bonne et due forme, devant 400 personnes, c'était la première fois que j'avais un micro, un serre-tête. Voilà, c'est un peu ça. Donc je me suis complètement viandé. D'ailleurs, Pépito Matteo, qui avait fait en sorte que je sois finaliste, m'a dit, essaye de faire plus court, mon gars, sinon tu vas te planter. Je n'ai pas fait plus court. et Abby Patricks m'a regardé avec ses yeux bleus de Norvège, là, qui m'a dit, c'est difficile, hein, mais bon, c'est tout. Mais ça m'a suffi à retenter l'année suivante et à ne pas être finaliste, mais à savoir qu'il y avait la possibilité de passer une audition. Et j'ai passé cette audition et j'ai été, et je me souviens, j'étais à ce moment encore en fonction bibliothécaire, je me suis mis sur la table, sûr que personne ne me voyait, des gens m'ont vu quand même, quand j'ai appris qu'Abby Patricks m'apprenait que j'étais retenu pour aller à Chevilly-la-Rue, pour être à la Maison du Comte pendant 3 ans, pour être formé.
C'est ça.
Et à partir de là, bah, j'ai fait tout le nécessaire pour passer. Chez nous, c'est le statut d'intermittence, qui est tout aussi difficile que vous pour obtenir le statut artiste. Et donc, j'ai commencé à faire les choses à 80%, voilà, aménager, et puis à, voilà. Voilà. Et puis, quelle passion, pardon, je reviens un petit peu à ta question, c'est ma grand-mère, hein, dont je parle dans Tanuki et Kitsune, qui me racontait les fables de La Fontaine, et c'était ce côté-là, où d'un côté, il y avait cette télé, qui est très présente, et qui fait auquel je rends hommage dans Mukashi, les contes manga. Je suis un dessin animé à ce moment-là. De toute façon, et vous le savez tous les deux, que ça soit La Chasse aux Skonks ou American Legend Stories, c'est des dessins animés et la BD qui sont nos nourritures, mes nourritures.
Des cultures populaires, en fait, aussi.
La culture pop et ma grand-mère. Voilà. Quand même, cette espèce de... Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, elle est restée... Elle est venue s'installer chez nous pendant presque un an parce qu'elle avait un cancer du sein. Et puis le temps qu'elle retombe, elle a voulu se rapprocher de ma mère. Hein. Et donc le temps de trouver un appartement, etc. Elle était venue s'installer chez nous. Et moi, je la voyais, je ne la connaissais pas beaucoup. Et la salle d'attente du cabinet orthophonique de ma mère était devenue la chambre à coucher de Louise, ma grand-mère. Et j'avais le droit d'aller voir ma grand-mère après le repas, le soir. Et j'en profitais bien, je savais très bien que ouais, 22h30, ouais, mais j'ai le droit, c'est mamie quoi. Et donc c'était l'histoire de France, c'était plus les fables de La Fontaine. Elle était truculente dans sa manière de raconter. Je pense que ça, j'ai eu une conteuse à la maison.
C'est ça, oui.
Et ça a compté, voilà, dans le reste. Même si quelque part, et après l'improvisation théâtrale m'a donné des outils pour jouer, et je le fais encore, hein, pour jouer de mon geste, de ma voix, de mon corps. Ben, voilà, il y a des compteurs qui sont assis, fixes. Micheline de
oui.
Hop, voilà, je.
Après, c'est aussi lié probablement à la personnalité aussi de compteur. Moi, j'ai le souvenir d'Henri Gougaud, qui restait assis aussi, mais qui pouvait emporter le public rien qu'avec sa parole.
Ouais, oui, mais ils n'ont pas connu le Club Dorothée.
Non, ça c'est vrai.
Non, mais c'est vrai. Et je pense que ça a modifié pas mal de choses.
Et alors, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu racontes, c'est votre âge. Parce qu'effectivement, souvent, quand on parle un peu de bio d'artiste en disant que déjà tout petit, je savais que j'allais devenir un grand artiste et tout ça. Et que, ben voilà, il faut parfois aussi échouer. Et quel est le moteur qui nous donne quand même encore envie de continuer, de se dire on va pas rester sur cet échec-là, et on a quand même, il y a quelque chose de fort en nous quand même qui détermine ça aussi à ce moment-là.
Bah, on a touché du doigt le feu sacré.
Oui.
On a un truc. Après, c'est difficile, même si franchement j'adorais mon métier jusqu'à ce qu'il change, changement de direction. J'aimais beaucoup le métier de bibliothécaire, vraiment. Mais une fois qu'on a touché à un peu la scène, le public, cette espèce d'électricité, je ne la retrouvais que moyennement dans les séances comptées, même si je m'éclatais bien. Il faut dire qu'il y a aussi deux autres choses que j'ai aimées qui font aussi que j'aime bien être conteur au plateau.
Hein.
J'aime bien donner corps à des beaux objets, donner vie à des beaux objets, etc., que ça soit... que ce soit American Legend Stories, de prendre soin à ces objets-là, qu'effectivement des récits de vie. Mais voilà, bon, une fois qu'on a fait ça, c'est très difficile de dire, bon, bah, je suis bibliothécaire, d'autant plus quand on te dit, il y aura moins d'heures du compte, vous serez amalgamé aux autres adultes. Et puis, vous voulez pas faire ce truc sur le catalogage? Ouais, je vais faire ce truc sur le catalogage. Bon. Voilà. Non mais voilà, pour dire tout simplement que j'avais touché un petit peu ce soleil, un peu comme Icare. Voilà. Et puis, ceci dit, heureusement, j'avais encore un contact permanent avec les écoles, qui fait que j'adorais cette relation. Et puis, comme je commençais un tout petit peu, j'ai eu pendant 3 ans la chance de j'étais pas intermittent, hein, c'était des... De raconter une fois par semaine pour des jeunes adultes autistes et troubles associés.
Ah oui.
Ce qui a fait que j'ai fondé mon répertoire jeune public, en fait, avec eux. Et, euh, et, euh, et de découvrir aussi. Enfin, moi, c'est l'expérience que j'en ai eue. C'était 8 jeunes. Il y en avait 4-5 permanents parce que j'ai fait au moins pendant 3 ans. Ils avaient chacun un autisme différent qui faisait qu'ils étaient réactifs à chaque chose très différente. L'espace. Tout d'un coup, je sors du tapis. Ah, ah oui. je sais que pour Thibaut, il va se passer quelque chose. Ou alors, la randonnée. Ah, je sais que Lucas, lui, il va être le loup mange la souris, Voilà. Et ça, cette espèce de connivence et aussi de sentir ces choses comme ça, c'est comme s'ils me donnaient des clés, mm-hmm. de par leur identité, de par aussi leur trouble autistique. Et ça, ça a été aussi très formateur.
C'est ça. Voilà. Mm-hmm. On va arriver tout doucement à la fin de notre émission.
Mais si on veut retrouver les informations, si on veut connaître ton agenda, mm-hmm. on fait comment ?
Eh bien, on va sur fredduvaux.com, bien sûr.
Et Duvaux, c'est avec D au bout.
Ouais, D. Car c'est le canton de Vaud hein, qui se trouve.
Ah oui, voilà.
Voilà, j'ai des racines de Lausanne.
Et donc, tout là, on peut trouver toutes les informations.
Ouais.
Tu racontes en France, en Belgique, et plus et affinité. C'est ça, voilà. D'accord.
Dans un milieu relativement francophone, mais je peux toujours essayer.
Et pas spécialement uniquement sur scène. Tu peux aussi, bah, j'imagine que si un centre de soins t'appelle,
oui.
tu acceptes.
Oui.
On a vu que la scénographie te permet de tout trimballer avec toi comme
oui.
un escargot. tu as tout sur ton dos quand
c'est
tu joues le spectacle. Donc voilà, on ne doit pas hésiter à t'appeler, même si on n'est pas un centre avec une super salle équipée.
Non, bien sûr, il est vraiment de projo, voire même pas de projo, mais une lumière, on s'adapte, etc. Et tout, voilà, c'est pas la même. Relation ni rapport, mais c'est une autre relation, notre rapport. C'est pas quelque chose d'amoindri de le faire dans des lieux non équipés.
C'est ça, d'accord.
Voilà.
Ouais.
Ouais, ouais.
Eh ben super, merci.
Un grand merci et à la prochaine pour la prochaine émission de Des Récits et des Ondes.
Merci.
Au revoir, merci.
Ouais, merci.
Merci beaucoup.
Ультразвуковой вибратор «Суперсоник». Фантастика!
Bien, bonjour.